de l'inclusion numérique de la Fondation Roi Baudouin nous rappelait à quel point nous sommes inégaux dans ce domaine. Un Belge sur deux n'a pas les compétences nécessaires pour utiliser ces technologies. Alors ce matin, je vous propose de nous intéresser à ceux qui disent non, qui refusent la dictature du tout numérique, qui en ont marre d'être filmés partout ou de passer plus de temps à remplir des tableaux de reporting qu'à faire leur métier. Ils sont agriculteurs, professeurs, jeunes, vieux. Ils se mobilisent dans un combat qui ressemble souvent à David contre Goliath, mais ils sont aussi très inventifs pour détourner le système et inventer de nouvelles façons de faire. Ces gens, les journalistes Nicolas Selnik et Fabien Benoît, les ont rencontrés pour le livre Technolutte, enquête sur ceux qui résistent à la technologie aux éditions Seuil. Et on découvre non pas des personnes réfractaires au progrès, mais des personnes qui pensent qu'un autre progrès est possible, plus respectueux des humains et de la nature. Bonjour Nicolas Selnik.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendant, collaborateur régulier des pages ID de Libération. Des gens qui trouvent que c'était mieux avant et qui sont réfractaires à la technologie, il y en a toujours eu. Mais en quoi ceux que vous avez interrogés pour ce livre sont différents et particulièrement contemporains ?
Ceux qu'on a pu rencontrer avec Fabien Benoît, mon co-auteur, ne sont pas forcément justement réfractaires, comme vous le disiez dans l'introduction très justement. C'est-à-dire que c'est des personnes qui souvent ont voulu simplement avoir la possibilité de réfléchir à quelle technologie ils voulaient utiliser ou non. Aujourd'hui, en fait, concrètement, ce qui se passe, c'est la même chose que ce qui se passait déjà depuis deux siècles. Et ce qu'on essaie de montrer, c'est que c'est toujours le même schéma qui se répète à peu près. C'est-à-dire que c'est pas des gens qui pensent que c'est mieux avant nécessairement. C'est plutôt des personnes qui voient une technologie qui arrive dans leur quotidien et qui n'en bénéficient pas, ou plutôt voient leurs conditions de vie se dégrader à cause de cette nouvelle technologie. On peut penser à l'informatisation pour certains métiers qui les rend répétitifs, etc. Comme avant, il y avait des tisserands qui perdaient leurs compétences à cause des nouveaux métiers à tisser et qui se sont révoltés, qu'on a appelé ensuite les ludites. Et donc, c'est cette prolongation d'un questionnement vis-à-vis des techniques qui sont utilisées, plutôt qu'un rejet en bloc des techniques, comme on peut parfois le voir de manière un petit peu simpliste.
Je vous propose qu'on prenne un exemple tout de suite qui nous concerne tous, l'agriculture. Les militants que vous avez rencontrés font un constat: l'agriculture actuelle prolétarise les agriculteurs, nourrit mal et détruit la planète, et pour eux, la technologie joue un rôle central dans ce système. Pourquoi ?
Alors, il y a deux choses. Le plus évident, ce qu'on aborde souvent quand on parle des questions d'agriculture, ça va être les pesticides. Ce sur quoi nous, on a voulu se concentrer, c'est plutôt la question du machinisme agricole, c'est-à-dire tout ce qui va être les énormes moissonneuses-batteuses, etc. En fait, tout ça, c'est des techniques qui ont été mises en place souvent en France, en tout cas après la Seconde Guerre mondiale, et qui ont contribué à une réduction énorme de la quantité d'actifs agricoles et de fermes en France. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est qu'on a amené des tracteurs qui, en fait, au départ, n'étaient pas forcément d'ailleurs vus toujours comme quelque chose de plus utile, mais on a trouvé des échos dans des vieux journaux des années 1850. Les tracteurs étaient présentés comme une manière de menacer les travailleurs agricoles pour leur montrer: regardez, si vous ne travaillez pas bien, on va vous remplacer par des machines. Ça, c'était dit noir sur blanc par des petits propriétaires locaux à l'époque. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé depuis 1950, on le voit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de fermes, les fermes sont beaucoup plus grandes. Et donc ça impose nécessairement un modèle d'agriculture extensive, c'est-à-dire qu'en fait, on va acheter une moissonneuse-batteuse pour 150 000, 200 000 euros, ce qui veut dire qu'il va falloir prendre des prêts, recevoir des subventions de la PAC. Pour les rembourser, il va falloir faire des cultures sur des très très grandes surfaces. Et donc, par défaut, le fait d'avoir ces grandes machines nous force à faire cette agriculture extensive à base de pesticides, parce qu'il n'y a plus le temps de désherber à la main, de labourer à la main, etc., qui, bon, selon certaines études, sont en fait la base du problème de l'alimentation aujourd'hui. Comparé à l'agriculture vivrière de petite échelle, au maraîchage, etc.
Dans votre livre, on trouve aussi des solutions, hein, et notamment sur ce problème, il y a une solution qui est proposée par un atelier paysan. L'atelier paysan, vous nous racontez ?
Alors, l'atelier paysan, c'est un groupe qui propose notamment, pas uniquement, de fabriquer ses propres machines. C'est assez amusant quand on va les voir, parce que ils ont des machines qui ont une apparence assez étonnante. On est habitué en fait aux tracteurs John Deere tout rutilants, etc. Eux, c'est plutôt du bricolage, mais c'est du bricolage qui est fait à partir de plans qui sont partagés ensemble, que les agriculteurs vont aller fabriquer eux-mêmes. En fait, ils se retrouvent dans des sessions. Ils ne savent pas forcément souder, ils ne savent pas forcément comment utiliser la plupart des outils qui sont mis à leur disposition. Ils se regroupent ensemble, ils fabriquent ça à partir de leurs besoins. C'est-à-dire qu'ils disent, moi j'ai besoin d'un outil pour labourer une surface en pente de telle manière. Et à partir de ça, ensemble, ils vont commencer à bricoler leur truc. Et l'idée, c'est de proposer des technologies qui soient ce qu'on a pu appeler les low-tech, un peu dans la lignée de Philippe Lewis, c'est-à-dire des technologies que les utilisateurs comprennent, qu'ils soient capables de réparer eux-mêmes, parce que si votre moissonneuse bateau se tombe en panne, vous êtes incapable de la réparer, bien sûr, donc il faut aller l'emmener chez le garagiste, etc. Alors que là, c'est des outils qu'ils ont fabriqués eux-mêmes et qui peuvent, sans problème, avec leur tournevis, leurs outils, leur fer à souder, retaper. Donc ça les engage sur des frais qui sont bien moins importants et ça permet justement cette agriculture qui est selon ce qu'ils ont envie de pratiquer plutôt que selon ce qui est en vigueur en général. Simplement pour dire un mot, la télé paysan aussi propose des alternatives politiques en ayant bien conscience que justement un outil technique un peu plus respectueux, de plus petite échelle, ne suffira pas en soi à repenser la question technique, qu'il faut aussi en discuter ensemble. C'est pour ça qu'ils font cette publication de livres, cette animation de conférences, etc., pour qu'il n'y ait pas seulement le côté technique.
Alors, vous avez prononcé deux mots qui sont particulièrement prégnants dans votre livre. Vous avez prononcé le mot « ensemble », et c'est vrai qu'on voit que dans ces luttes, souvent, il y a des sociabilités aussi qui se créent, des gens qui se rencontrent, et vous avez prononcé le mot « politique ». On se rend compte à quel point la technologie est politique. Il y a une autre mobilisation qui a retenu mon attention, parce qu'elle est toute simple et efficace, celle contre les trottinettes électriques qui est proposée par Extinction Rebellion à Lyon. Mais d'abord, ce qui est intéressant, c'est le pourquoi de cette mobilisation contre les trottinettes. C'est pas parce que c'est moche et que ça encombre les trottoirs, même si c'est moche et ça encombre les trottoirs, mais c'est pour un motif plus intéressant. Lequel ?
Alors, c'est que les trottinettes, comme beaucoup d'autres de ces innovations, sont présentées comme quelque chose d'écolo. On vous dit, regardez, c'est des mobilités douces, c'est électrique, donc ça ne pollue pas, etc. Bon, outre le fait que ça va être des gens qui s'appellent des juicers, qui les rechargent et qui, en fait, circulent en diesel en périphérie des villes pour aller les recharger chez eux et que c'est dans des conditions de travail assez précaires. En fait, les trottinettes, ça remplace, dans presque la moitié des cas, non pas la voiture, non pas les transports en commun, non pas le vélo, mais la marche. Dans 10% des cas, ça remplace le vélo, dans 20% des cas, c'est le transport en commun, la proportion de voitures, c'est vraiment très minime, mais vraiment 47% des cas, d'après les études qui ont été faites, c'était la marche. Et en plus, ces trottinettes, elles ont une durée de vie qui est de 27 jours, d'après les données qui ont été utilisées aux États-Unis, c'est-à-dire qu'elles roulent 228 km en moyenne, et après, elles finissent à la benne, globalement, sans parler de problèmes des batteries, etc. Donc face à ça, et en effet, ces militants d'Extinction Rebellion qui ont eu ces idées assez rigolotes, pour certains, il s'agissait simplement de colorier avec un feutre le QR code qui permet de les utiliser. Et pour d'autres, il y avait un détournement un peu plus subtil, un peu plus amusant, je pense que c'est celui qui a retenu votre attention, c'était de mettre un autre QR code à la place. Comme ça, les personnes qui voulaient scanner se retrouvaient propulsées sur le site d'Extinction Rebellion où on leur donne ces chiffres. Et après, on leur parle justement des aspects un peu plus politiques, dans le sens, au fond, avez-vous décidé que du jour au lendemain, il y aurait ces trottinettes absolument partout dans vos villes, que des acteurs privés peuvent s'approprier l'espace public pour mettre des trottinettes devant chez vous, avec assez peu de respect pour les codes de l'urbanisme en vigueur, parce qu'il n'y a au début, en tout cas, il n'y avait pas d'espace délimité pour les trottinettes. Donc, c'est en partie cette volonté de politiser la question, au sens non pas gauche-droite, mais au sens de pourquoi est-ce que ce qui prend une partie importante dans nos vies, on n'a pas eu un seul moment notre mot à dire dessus, sans porter de jugement d'ailleurs sur le fait que ce soit bien ou pas, simplement le fait de c'est arrivé et on n'a pas du tout la possibilité de questionner leur utilité,
Nicolas Salic, votre livre, il est particulièrement intéressant parce qu'il y a un peu tout, des réflexions, des exemples concrets de mobilisation. Et puis parmi ces réflexions, il y en a une qui sans doute parlera à beaucoup de monde. Grâce ou à cause du numérique, on nous demande du reporting sur à peu près tout, qu'on soit agriculteur ou prof ou conseiller au CPAS. Sur ce sujet, vous citez Mathieu Amiège qui développe une pensée critique de l'information et de la technologie. Il nous dit que tous ces gens qui se retrouvent au quotidien à répéter inlassablement des tâches simples et peu gratifiantes comme traiter des courriels, faire du reporting et remplir des tableaux, ce sont en quelque sorte des nouveaux ouvriers. Expliquez-nous.
Alors, il y a cette idée qui est assez intéressante de prolétarisation qui a été développée donc, dans les années 50. C'est pas nous qui l'utilisons, mais Mathieu Amiège reprend cette idée. En fait, il s'agit de dire que si on définit la technique, la technologie comme la volonté d'une méthode la plus efficace possible dans toute chose, on va forcément aboutir à une division du travail comme avant il y avait eu le Fordisme, la division du travail dans les usines, etc. Et en fait, il se passe la même chose également pour les métiers du tertiaire, du secondaire. C'est-à-dire que on veut aller au plus vite. Le numérique est souvent présenté comme une manière d'être plus efficace. Grâce à votre tableur Excel, vous n'avez pas besoin de sortir la calculette, etc. Et en fait, ça se retrouve dans des métiers où cette efficacité peut être mise en question. Par exemple, si on pense aux profs, si on pense à une conseillère pour l'emploi avec qui on a longuement discuté, au lieu de prendre le temps de conseiller les demandeurs de droit, ce qui va se passer, c'est qu'elle va se retrouver toute la journée à remplir des mails qui sont en fait des mails préfabriqués pour simplement dire « Ok, vous avez coché tant de critères, vous avez le droit à vos allocations, non, par contre, vous n'avez pas le droit à ces allocations. » Et avec plus aucun moment de contact humain, de « Mais en fait, qu'est-ce que vous voulez faire? Comment est-ce que je peux vous aider ?» etc. Ce qui passerait dans un échange comme on peut l'avoir en ce moment. Et cette division du travail fait qu'elle se contente de répondre à des mails pour valider en fait ce qui a été défini en amont par des supérieurs hiérarchiques qui disent si y a ces critères qui sont remplis, ok, sinon non. Et dans ce cas, il y a une perte de sens du travail parce qu'on se retrouve simplement à être une espèce d'exécutant, de prolétaire au sens de celui qui va simplement faire la tâche qui lui a été assignée sans avoir aucun moment de savoir-faire, de savoir-être qui rentre en jeu. Et c'est pour ça qu'on peut notamment questionner l'arrivée du numérique en se demandant mais est-ce que depuis que j'ai tous ces formulaires à remplir, depuis que je dois faire mes formulaires administratifs, même en étant prof, est-ce que moi j'ai une plus grande liberté d'action ou est-ce que cette part d'administratif a pris une telle place dans mon métier que il en a perdu un petit peu de sa valeur.
Ouais, la question est ouverte, mais c'est une question qu'on peut se poser. Mathieu Amièche, hein, par votre voix aussi, le numérique est une dépossession existentielle venant confisquer l'autonomie que les gens avaient dans leur travail et le sens qu'ils lui donnaient. Dans votre livre, vous parlez aussi de méthodes pour contrer un peu les sites internet qui exploitent nos données. Vous parlez de data poisoning. On n'a pas forcément le temps ce matin de détailler de quoi il s'agit, mais en tout cas, vous retrouvez tout ça dans Technolutte, enquête sur ceux qui résiste à la technologie, c'est signé Fabien Benoît et Nicolas Sennick. Nicolas Sennick était notre invité ce matin, merci beaucoup.
Merci à vous.